ceux de Dürr-Segens, avec comme titre « Suivre l'agneau ». Lisons dans Matthieu, chapitre 18, à partir du verset 1. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « en vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Un petit enfant comme celui-ci, dans le verset 5, réfère au verset 4, c'est-à-dire un homme devenu humble comme un enfant et entré dans le royaume des cieux. Je ne lis pas les versets suivants où on parle des occasions de chute, et je passe au verset 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Dans ce verset 10, les petits sont à nouveau ceux qui, devenus comme des enfants, sont entrés dans le royaume des cieux, c'est-à-dire nous. C'est bien de nous qu'il s'agit. Nous ne sommes pas des grands, nous sommes des petits. Jésus dit « Gardez-vous de les mépriser », c'est-à-dire « Ne les considérez pas comme faibles et insignifiants. Ne les regardez pas avec condescendance, car c'est cela mépriser, c'est se trouver soi-même plus important. » Jésus a toujours aimé les petits, les moindres, les mépriser, les derniers, les effacer, les discrets dans ce monde. Et leurs anges sont continuellement en contact avec le Père. Au verset 11, Jésus dit « Le Fils de l'homme est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. » Et voilà le cœur de ce message. Jésus est venu pour retrouver et pour sauver ceux qui étaient perdus. Que faisons-nous lorsque nous perdons quelque chose ou quelqu'un? Nous le cherchons, bien entendu. Et c'est une question que nous devons nous poser continuellement. Sinon, nous oublions quelque chose d'important. Sommes-nous à l'affût pour chercher à sauver ce qui est à sauver, ce qui est perdu? Cherchons-nous à sauver? Maintenant, Jésus continue, il raconte la parabole de la brebis égarée. Voyons cela, Matthieu 18, verset 12. Jésus commence par dire « Qu'en pensez-vous ? » Et je pense qu'il laisse planer un silence après cette question, histoire d'y réfléchir pendant un instant. « Qu'en pensez-vous ? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il parvient à la retrouver, en vérité je vous le dis, il s'en réjouit plus que pour les 99 autres qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qu'il se perde un seul de ses petits. Le mot s'égarer signifie, bien entendu, perdre sa route. Un jour, je me suis égarée dans la ville d'Amsterdam. Je me suis alors renseignée auprès des passants. Je leur ai dit « Je me suis perdue ». Et une dame m'a répondu « Mais mon cher monsieur, cela nous arrive bien une fois à tous. » C'est vrai, cela peut arriver à tous, y compris à ceux qui appartiennent au troupeau. Ils commencent à hésiter, ils tournent en rond, ils se mettent à errer et ils vont chercher ailleurs. Ainsi, certains font du shopping de religion. Ils sont à la recherche de quelque chose de nouveau à vivre. Ainsi, ils se détachent du groupe et ils ne sont plus nourris. Ils ont perdu le berger et ils arrivent dans la mauvaise direction. Alors, ils sont tentés par le péché. Moi-même, cela m'est arrivé. Il fut un temps où je croyais en la prédestination. J'ai cru être pécheur pour l'éternité. Et arrivé à ce niveau-là, j'étais vraiment sur une mauvaise piste. Et cela arrive sans qu'on le veuille. Moi, j'étais arrivé dans d'étranges façons de penser, des façons qui ne font du bien à personne, au contraire. Cela rend malade. Séduire signifie être guidé vers un autre côté, être dévié en quelque sorte. Ce mot revient très souvent dans le livre de l'Apocalypse. Nous pouvons donc nous imaginer que la séduction va augmenter, elle va croître de plus en plus. Et c'est pour cela que nous devons prier, « Père, ne nous laisse pas tomber dans la séduction du malin. » Car le diable est le grand séducteur. Il essaie continuellement d'éloigner l'homme de la proximité de Dieu. C'est son but. Le diable est le ravisseur de notre bonheur et de notre paix. Nous sommes des brebis fragiles. Nous croyons facilement ce qu'on nous dit et nous constatons après coup que ce n'était pas vrai, surtout par rapport aux guérisons corporelles. Et il s'ensuit des déceptions énormes. Ne nous laissons pas non plus imposer les mains par n'importe qui, par des inconnus. Ne suivons pas les fausses pistes qui ne sont pas les sentiers de la justice dont parle le psaume 23. Dans certaines églises évangéliques, par exemple, on adore le Saint-Esprit. Mais moi je vous dis, il n'est pas possible d'adorer le Saint-Esprit. Nulle part dans la Bible on parle de l'adoration de l'Esprit. Dans le livre de l'Apocalypse, il est dit clairement « Adore Dieu ». Ne nous laissons pas entraîner dans une espèce d'euphorie un peu vague. Dans Luc, chapitre 21, verset 34, Jésus dit « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès ou par l'ivrognerie et par les soucis de la vie. Ne nous jetons pas dans une euphorie spirituelle, comme celle autour du veau d'or. Qui de nous n'a pas connu des personnes qui ont essayé de nous détourner, de nous séduire au péché? et il se peut que nous soyons ainsi arrivés sur une voie d'égarement. Mettons-nous à la place de la brebis perdue. Elle est un membre de l'Église, et à l'origine, elle appartenait au troupeau. Dans Sophonie, chapitre 3, verset 18, nous lisons « Je recueillerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont demeurés loin de toi, et toi, c'est la cité de Jérusalem. » Plus loin, Dieu dit « Je recueillerai, je vous ferai revenir, je vous rassemblerai, je vous ramènerai. » Et Dieu dit ceci à toutes les brebis égarées. C'est beau, n'est-ce pas? Et l'œuvre de Vox est dirigée dans ce sens. Elle vise des individus, des isolés, des perdus. Si un jour, comme la brebis égarée, nous arrivons à être coincés dans une impasse, et cela peut nous arriver, même ici, dans cette salle, on peut être un membre fidèle de l'Église, mais cependant être égaré spirituellement. Nous sommes alors des expatriés, détachés du berger. Parce que le troupeau n'existe que par la grâce du berger. C'est lui qui tient le troupeau ensemble. Il se peut même que l'on s'éloigne de soi-même, qu'on ne sache plus rien du tout, qu'on se dise « Qui suis-je en fait ? Suis-je bien une brebis ? Fais-je bien partie du troupeau ?» C'est une crise d'identité spirituelle. Mais cela a aussi à voir avec une sorte de peur de se lier, une angoisse devant la liaison. Peut-être n'osons-nous pas nous insérer dans un groupe. Peut-être tu n'oses pas, car tu mets ta liberté au-dessus de tout. Mais en fait, tu confonds liberté et solitude. Cela peut être une chose très délicate dans les idées. Oses-tu t'insérer? Oses-tu appartenir à un groupe? Car notre vie dépend de ce groupe. Oser donner à l'autre une chance de t'aimer. Oses-tu avoir un prochain à côté de toi qui te témoigne de la miséricorde, qui est simplement bon pour toi? Ou bien, dis-tu, « Oh, je me débrouillerai bien tout seul, je m'en tirerai. Je ne veux pas être à charge d'un autre. » Mais toutes ces sortes de remarques te séparent de l'amour de l'autre, cet autre en qui Dieu agit, peut-être pour toi. Veux-tu être aimé ou n'en es-tu pas capable? Ne le peux-tu pas? N'es-tu donc habitué à rien? Si tu es dans ce cas-là, alors tu es vraiment quelqu'un qui a besoin d'être pris dans les bras. Les personnes solitaires, complètement seules, je veux dire spirituellement parlant, ces personnes sont très vite la proie des loups. Et quels loups sont les plus dangereux? Ce sont ceux qui ont revêti l'habit de brebis. Et Jésus est vraiment en colère contre ces loups-là, ceux qui sont en habit de brebis. Dans Matthieu, chapitre 23, au verset 15, Jésus dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Vous parcourez les mers et les continents pour faire un prosélyte, c'est-à-dire un converti. Et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, deux fois pire que vous. C'est une expression forte. Ézéchiel aussi a prophétisé contre de tels hypocrites. Il a dit « comme des loups qui déchirent leur proie ». Ce sont les mauvais bergers. Les brebis s'égarent parce qu'il n'y a pas de bons bergers qui les gardent ensemble. Et l'équipement du bon berger se compose de deux houlettes, c'est-à-dire deux bâtons, et l'un se nomme tendresse, et l'autre lien, ou bien union. Nous pouvons lire ceci dans Zacharie, au chapitre 11. Mais il y a pire que les mauvais bergers. Supposez que nous voyons une brebis s'en aller. Elle s'égare. Et nous la voyons séduite par le péché. Elle se trompe. Elle est trompée. Allons-nous, en plus, lui donner des coups de pied dans le dos? Lui envoyer un courriel? Une lettre de reproche? Mais si nous faisons cela, nous sommes dans l'erreur. Car la seule chose que Dieu cherche, c'est le dialogue. Allons plutôt voir cette brebis, comme nous le lisons dans la suite de notre texte, Matthieu 18, au verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la parole de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péager. Donc, si ton frère pêche, va vers lui et reprends-le entre quatre yeux. Dans le texte originel, reprends-le signifie aide-le à se redresser afin qu'il redevienne droit. Ne le juge pas. Des gens qui se voient régulièrement ne s'écrivent pas de lettres de réprimande. Ils peuvent se parler. Judas aussi a été la victime de ce genre d'agissement. On lui a dit « Que nous importe si tu as des regrets, à toi de voir. » Nous le lisons dans Matthieu 27, verset 4. Ça, c'est donner un coup de pied en plus. Mais alors, que faire de la brebis galeuse? Ne la condamnons pas trop facilement, mais rendons-lui visite et essayons de redresser les choses. Et si cela ne réussit pas, essayons peut-être à deux. Et si cela ne réussit toujours pas, disons-le à l'Église. Et au bout, au verset 17, Jésus dit « Alors, qu'il soit pour toi comme un païen et un péager. » Mais je vous le demande, qui fréquentait les païens et qui fréquentait les péagers? C'est bien notre Seigneur Jésus. Si la brebis est redevenue païenne, Il faut alors lui apporter l'Évangile. Recommençons à nouveau. Ne rayons jamais personne. Sinon, c'est que nous n'avons rien compris à l'Évangile. Ne méprisons pas les petits. Il ne faut jamais reprocher un péché à quelqu'un. De toute façon, il est pardonné. Comment parlons-nous de toutes ces personnes? Comment parlons-nous de nos voisins, par exemple? Que pensons-nous d'eux? Et que pensons-nous les uns des autres entre chrétiens? Nous avons chacun notre passé, oui. Mais heureusement, c'est du passé. Mais donner un coup de pied supplémentaire, c'est vraiment grave. C'est piétiner quelqu'un qui est déjà par terre. Voulons-nous être un bon berger? Si nous le sommes, les gens nous prendront à cœur. Sinon, c'est peut-être que nous ne sommes que des mercenaires et que nous n'avons toujours rien compris au sacrifice de Jésus. Car Jésus est mort pour l'ami et pour l'ennemi. Jésus est devenu lui-même une brebis galeuse. Il faut s'en rendre compte. Brebis galeuse signifie qu'il a pris toutes les fautes sur lui, même en étant complètement innocent. Jésus a dit, « Laisse-moi donc porter les fautes. Faites de moi une brebis galeuse. Ainsi, vous serez débarrassés des fautes. » Que pensons-nous de cela? Je ne vais pas raconter le rituel du jour du grand pardon, car la plupart d'entre vous le connaissent bien. On envoyait deux boucs chargés des péchés du peuple dans le désert. C'est ce que fit Moïse ou les grands prêtres. On posait les mains sur la tête du bouc et ensuite on l'envoyait dans le désert. Et ce bouc portait symboliquement tous les péchés du peuple. C'est une image de notre Seigneur Jésus. En anglais, cela s'appelle scapegoat. Scape vient du verbe to escape, qui veut dire s'échapper. Nous échappons grâce au sacrifice de Jésus. Nous échappons à la condamnation. Ainsi, il n'y a pas de jugement pour celui qui est en Jésus-Christ, dit Paul dans Romains, chapitre 8, verset 1. Jésus, quel homme extraordinaire! Donne-moi tes fautes, dit-il. Donc, lorsque Jésus pendait à la croix, dans le ciel, c'était le jour du grand pardon. Et tout fut accompli. Quel amour, quelle miséricorde que ce divin sabbat spirituel qui permet à l'homme de revenir dans le calme et qui a eu lieu sur le Golgotha. Comme c'est grand, dit Jean dans le chapitre 19. Verset 31. L'amour, dit Paul, l'amour de Dieu, c'est-à-dire l'agapé, ne se cherche pas lui-même. Connaissez-vous cette expression? Cherchez l'autre. C'est ce que Dieu fait. Dieu cherche l'autre, il cherche celui qu'il a perdu. je trouve tellement beau qu'ici, Jésus parle du berger qui dit « Je laisse les 99 brebis ici. Elles s'en sortiront bien. » C'est magnifique, non? Car celle qu'il a perdue, il la prend bien plus à cœur que les 99 autres. Car quand il a retrouvé, en fait, il est écrit, et quand il arrive qu'il l'a retrouvé, car cela peut aussi bien ne pas arriver. Quand il a la chance, donc, de la retrouver, parce que il cherche, mais il se peut qu'il ne la retrouve pas. Donc, quand il la retrouve, que se passe-t-il? Peut-être que la brebis a très peur. Peut-être bien qu'elle se sent coupable. Mais le berger montre qu'il est heureux de l'avoir retrouvée. Je trouve amusant que le berger est plus heureux avec celle-ci qu'avec toutes les autres. Il jubile. Et comment les 99 autres vont-elles réagir? Diront-elles, « Eh bien, nous avons toujours été fidèles et on ne nous a jamais fait la fête. » Tout comme le frère du fils prodigue. Faisons donc une fête du retour et fêtons avec le berger. Les anges aussi fêtent. Ce que je vous demande, c'est de regarder autrement les frères et les sœurs qui pêchent, les chrétiens qui s'égarent. Séparez les hommes de toutes les religions du monde entier et cherchez tout simplement pour les retrouver. Vous les rencontrez partout, dans chaque église, dans chaque cercle. Il faut que notre seul mobile soit la miséricorde, l'amour. Il se pourrait qu'une brebis vienne soudainement à la découverte qu'elle a commis des fautes, qu'elle a péché, mais elle a peur de revenir, parce que on lui a encore jeté une pierre à la figure, on lui a donné un coup de bâton. Est-ce qu'une brebis perdue osera aller vers toi? Que dégages-tu? Dégages-tu une disposition à pardonner? De la miséricorde? Ou méprises-tu les petits? Peux-tu encore t'émouvoir? Et par quoi vient ton émotion? Qu'est-ce qui vit en toi? Quelqu'un qui a roulé sa bosse partout revient dans la communauté et nous connaissons son passé. Sera-t-il le bienvenu ou pas? Peut-être qu'il se trouve à la sortie, les jambes tremblantes, en train de fumer sa cigarette, terriblement nerveux. Sera-t-il le bienvenu? Relisons le récit du fils perdu, car il est écrit que le père alla à sa rencontre. Il courait même à sa rencontre. Quel père, n'est-ce pas? Quel rayonnement! Donc, la question que je me pose, car il faut toujours se remettre en question, c'est « Suis-je bien un bon berger ? » Suis-je quelqu'un à qui on peut se confier? Ou est-ce que je me sens immédiatement obligé d'étaler tout ce que je pense? Et dans ce cas-là, c'est bien triste. Il est préférable quelqu'un qui embrasse dans le silence et qui ne dit plus rien. Celui qui a fait fausse route se sentira en sécurité avec une telle personne. Je vais encore donner quelques idées sur la brebis. En grec, c'est probaton, et cela signifie pionnier, c'est-à-dire quelqu'un qui marche devant. C'est une petite brebis, ou aussi une petite chèvre. C'est de toute façon du petit bétail. La brebis est l'image de l'homme intérieur, de notre esprit, de notre âme. Et Jésus choisissait aussi le petit bétail comme image, l'agneau. Cela aussi donne à réfléchir. On peut même parler d'un agnelet, le plus petit, celui qui vient juste de naître. Cherchons dans Genèse le passage sur le troupeau de Jacob avec tout son petit bétail. Jacob doit rencontrer son frère Ésaü. Nous lisons dans Genèse chapitre 33, versets 13 et 14. Et voilà ce qui se passe. Jacob dit : Mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que je dois penser aux brebis et aux vaches qui allaitent. Nous avons déjà compris, il s'agit ici de l'Église. Et il dit, si on les surmène un seul jour, tout le bétail peut mourir. À quelle vitesse allait ce troupeau? Il allait lentement. Plus loin, nous lisons, pour moi, je cheminerai doucement au pas du troupeau que j'ai devant moi, et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur. En Seïr, il parle à Ésaü, bien sûr. Que penser de cela? Jacob est vraiment un bon berger. Il ne presse personne. Il s'adapte au rythme des enfants et du bétail. Il y va doucement. Il y en a de tous les côtés. Il flaire partout. Et les enfants courent à gauche et à droite. Que fait alors le berger? Eh bien, il attend que les choses se passent, que tout se calme. Voilà son attitude. Paul dirait bien, ceux qui croient ne se pressent pas. Que penser de cela? Ce sont les petits qui détermine le tempo. Voilà le vrai berger. Il est dit de Jacob et d'Abraham qu'ils étaient de bons bergers. D'ailleurs, ils tenaient ça de Dieu. N'avait-il pas Dieu comme berger? Aussi, Dieu ne nous presse pas. Il ne fouette pas son troupeau pour le faire avancer. Mais il mène les brebis vers les eaux tranquilles, les eaux du repos. Il y a aussi des boucs. Les boucs sont symboles de personnes têtues. Ils ne veulent pas écouter. Ils sont assez brutaux. Mais leur plus grande caractéristique, c'est de vouloir dominer. Et les boucs dominent. Mais finalement, les brebis seront séparées des boucs. L'agneau est toujours le symbole de la douceur et de l'innocence. Il est aussi le symbole de la faiblesse. L'agneau ne peut pas se défendre seul. Il est fragile. L'agneau de Dieu. Nous le voyons dans le monde invisible, où Dieu est en train de protéger le petit agneau. Ce petit agneau court devant, comme nous le lisons dans Apocalypse au chapitre 14. Nous suivons l'agneau partout où il va. Et où cela nous mène-t-il? Suivre l'agneau signifie donc suivre à son rythme, suivre selon sa nature miséricordieuse. Et ensuite, le salut et la bonté nous suivront. Quand l'agneau de Dieu se retourne et qu'il regarde en arrière, il nous voit. Il peut alors dire « Le salut et la bonté me suivent. » Car de ces brebis-là, de ces gens, se dégage le salut et la bonté. Ce sont vraiment des disciples. L'expression « suivre Jésus » est employée à tort et à travers. Mais qui ose suivre dans l'impuissance, dans la faiblesse? Qui ose faire cela? Le petit agneau va devant nous. Je lis un passage d'une prophétie à l'intention des personnes faibles. Pour vous les opprimés, les anxieux, les piétinés de tous les côtés, les violés et aussi les réfugiés. Il y a en vous un profond désir d'amour, un désir d'être aimé, un désir si fort et si impatient qu'il devient un gémissement. Et ce désir, Dieu y répond sous la forme d'un homme. Un homme qui est dans la stature de Dieu. Dans toutes vos blessures, dans votre faiblesse, dans votre tristesse cachée, confiez-vous à celui qui est fidèle à Dieu. Et ensuite, désirez-vous aussi être cette manière d'être homme. Un homme avec lequel chacun se sent en sécurité. Un homme plein d'amour. Une source fiable de Dieu. Son arbre. Cet homme-là pourra délier les opprimés, mettre en liberté les angoissés, élever les parias, donner la vie véritable aux exploités. Et un toit éternel aux réfugiés. Si tu deviens comme ça, tu pourras établir les méconnus, faire valoir la grâce pour les condamnés. Et il sera dit de toi, Dieu dira de toi, « Voici mon bien-aimé, écoutez-le. » Amen. Ma prière sera courte. Père, apprends-nous à être un agneau et aussi à devenir un bon berger. Amen.